Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Rhizome, émission de l'Institut Nomade. Ce soir, une émission sur le passage à l'acte et l'engagement en compagnie d'Anaïs Dumaine, de Ludovic Coquet et d'Alexandre Le Petit.
This is what I did while you were away, baby. Now aren't you glad to be back home?
Par représentatif, ce qui est représentatif, en gros, c'est ce qui est représenté. Quoi. Ce qui est représenté, bon, on le voit, on l'entend tous les jours.
Au moment même où ce soir je vous parle, je suis en train de m'individuer. M'individuer signifie chercher à constituer la cohérence symbolique de mon propos. Mais je ne réussirai à m'individuer que si je réussis à faire que vous individuiez avec moi. Si mon individuation réussit, elle devra avoir réussi en vous, mais pas du tout de la même manière. Car ce que je suis en train de vous dire, j'en entends et interprète quelque chose, la même où vous s'entendez autre chose. Et c'est ce qui est intéressant, c'est la condition du nous, et ce qu'il révèle de potentiel, de puissance en grec, du manéis. Cependant, en nous individuant ensemble, vous et moi, chacun de notre côté, et vous et moi, en tant que nous formons un groupe, nous participerons aussi à l'individuation de ce qui nous relie, la langue, la philosophie, les lois, etc., qui constituent pour nous un fond pré-individuel.
A song is not what it seems. A tune, perhaps. Bird whistled while even America listened. We play. But we aren't always dumb. We are murdered in amphitheaters, on the podia of the Audubon, the Earl. Philadelphia, 1945. Malcolm, my people. Dear God, Malcolm.
Thank you. La question de l'origine est ce qui constitue toute individuation humaine, c'est-à-dire tout désir, tout être humain en tant qu'il est essentiellement désirant. Or, la philosophie est essentiellement, en son départ au moins, une recherche de l'origine. Et c'est en ce sens que l'on peut dire que tout être humain est philosophant, en tant qu'il est toujours et dès l'origine inquiet de son origine. C'est ce que dit Blanchot en se référant à Freud. Freud dit à peu près que toutes les questions posées à tort et à travers par les enfants leur servent de relais pour celles qu'ils ne posent pas et qui est la question de l'origine. De même, nous nous interrogeons sur tout, afin de maintenir en mouvement la passion de la question. Mais toutes sont dirigées vers une seule, la question centrale ou la question de tout. La question de l'origine est d'emblée une question érotique ou libidinale. C'est littéralement parlant, la question du désir, la question que pose le désir, qui ne cesse de questionner, et la question qui se pose dès lors que l'on questionne le désir, que l'on demande au désir ce qu'il en est du désir. Dans Le Banquet, Platon fait dire à Diotima que le savoir est dans sa nature radicalement érotique, et que c'est pour cela que la philosophie est amour du savoir, mais en tant que ce savoir fait essentiellement défaut, comme fait défaut tout objet de désir. Tout désir est toujours désir de savoir précisément en ce sens où je pose que l'homme, comme être désirant, est toujours potentiellement philosophant. Et de ce point de vue-là, je ne pense pas avoir personnellement une vocation philosophique particulière. Je pense avoir la vocation que tout le monde a pour la philosophie. Je pense et j'ai toujours pensé que je suis voué comme nous tous à la philosophie, comme nous tous en tant que nous sommes. Mais la question serait cependant aussi, et ce serait un sensible déplacement, de savoir si nous ne sommes pas ainsi voués en tant que nous devenons. Tel est le sens de la question du devenir philosophe, posée depuis la temporalité comprise comme processus d'individuation, et celui-ci comme passage à l'acte d'une vocation philosophique, potentielle, commune à tous, à tous les jeux qui forment le nous que nous sommes et devenons.
Le peuple, simplement, ça n'existe pas. C'est-à-dire que le peuple, c'est toujours le produit d'un certain nombre de pratiques. Ça peut être des pratiques, disons, matérielles, ça peut être des pratiques de discours qui sont aussi des pratiques matérielles, mais en tout cas, un peuple, c'est toujours construit par des institutions, par des actions, par des discours. Donc, il n'y a pas le peuple, et puis on se demande comment on va le représenter. Non, la représentation crée un peuple. Et oui, alors moi, je me suis intéressé effectivement à des... essentiellement un certain type de peuple, un certain type de construction du peuple, quoi. C'est-à-dire construction du peuple, notamment bien sûr dans tout le travail que j'ai fait sur la nuit des prolétaires, par des ouvriers qui changent le sens même d'être ouvrier, parce que ouvrier dans le à leur époque, ça veut dire on travaille, on est à l'atelier, on va pas s'occuper de ce qui se passe au niveau global, on est dans son petit coin, on n'a pas l'intelligence, on n'a pas la connaissance, etc. Et puis il y a des gens qui disent nous on s'intéresse à tout. Nous, on a envie finalement de participer à un monde commun. Participer à un monde commun, ça veut dire éventuellement se transformer en poète, se mettre à écrire des vers, même si on ne sait pas écrire en prose. Mais ça veut dire aussi s'occuper des affaires communes, décider que un rapport de force dans un atelier, c'est pas seulement un rapport de force dans un atelier, mais c'est deux mondes qui s'opposent. Donc on va créer des associations, on va créer des journaux, on va créer des mouvements qui affirment justement que les gens qui étaient censés être dans le particulier, qui étaient censés être dans un ordre inégalitaire, ils sont des participants égaux à un monde commun. Alors ces gens-là, on peut dire que ils créent un peuple, quoi. Le signifiant ouvrier, pourquoi il a eu tellement d'importance? Parce que, ou prolétaire, parce qu'il n'a pas simplement signifié une condition sociale, mais signifié justement comme une espèce de transformation de cette condition sociale, transformer la façon dont un groupe de gens qui sont en principe relégués à une place se transforme en gens qui parle pour tout le monde, hein, et qui participe au commun en tant que parlant pour tout le monde, et pas simplement en tant que parlant pour avoir un peu plus d'avantages pour les ouvriers. ça, c'est un peuple, c'est ce peuple-là auquel je me suis intéressé, qui effectivement, il fait de ruptures individuelles. Et bien sûr, on me l'a reproché beaucoup. On me dit, ah, mais c'est les individus, c'est pas représentatif. Ce qui est représentatif, bon, c'est les grandes masses, ceux qui bougent, c'est pas représentatif. Ce qui est représentatif, c'est ceux qui bougent pas. Bon, et ainsi de suite, quoi. Alors, bien sûr, quand on raisonne comme ça, ben, on arrive à ce qu'on voit aujourd'hui, quoi. À savoir que, pas représentatif. Ce qui est représentatif, en gros, c'est ce qui est représenté, quoi. Et ce qui est représenté, bon, bah, on le voit, on l'entend tous les jours.
La question de la philosophie est d'abord celle de l'action. C'est en conséquence de cette question de l'articulation du jeu et du nous chez les philosophes qu'une vie de philosophe devrait être exemplaire. La philosophie d'un philosophe n'aurait de sens qu'à s'illustrer dans sa manière de vivre, c'est-à-dire de mourir. Articuler son existence et sa pensée de manière à ce qu'elle n'entre pas en contradiction. C'est une expérience particulière de l'impossible, aussi bien que de la vérité, et comme d'une vérité de l'impossible. Une expérience non seulement de la vérité mathématique, physique, artistique, etc., mais bien de la vérité en tant que telle. Une manière de vivre sinon dans la vérité, ce qui serait évidemment illusoire, du moins dans la question de la vérité, dans l'appel ou l'épreuve de la vérité, telle qu'elle n'est réductible à aucune activité particulière, et constitue ainsi ce que Blanchot nomma la question du tout.
Lorsque pour la première fois elles m'apparurent comme telles, les questions de l'origine et de la réminiscence se présentèrent à moi d'emblée comme la question de la vérité. De fait, la question de l'origine est la question de la vérité de l'origine, et c'est immédiatement, en cela, la question de la vérité même. Réfléchissant à l'opportunité de répondre à l'invitation de Marianne Alphand, j'ai donc décidé de me retourner frontalement, voire brutalement, vers cette question de la vérité, telle que je l'ai rencontrée à un moment de ma vie, de manière presque palpable, comme si elle avait un corps, littéralement comme si je pouvais la toucher du doigt, comme on dit. Sans doute ne l'ai-je jamais touchée en fait, mais elle m'a certainement touchée, d'une façon ou d'une autre. La question de ma vocation philosophique, tout à coup posée, et si tant est qu'il y ait de telles vocations, m'a amené à penser qu'il était temps que je reconstitue, par une anamnèse, la question de la vérité telle que, précisément, elle s'est constituée pour moi comme question de la vérité du temps. Il était temps que je la repose et que je m'y expose, comme cela m'était accidentellement proposé. Il m'est apparu qu'il était dans mon devoir, d'une certaine manière, et c'est un mot lourd, dont cependant j'assume le poids, il était de mon devoir de dire, sinon la vérité, du moins la nécessité de dire la vérité, et de le faire en tentant d'aller autant que possible au bout de ma vérité, de la vérité sur mon parcours dans la question de la vérité, et peut-être comme expérience de l'impossibilité de dire la vérité autrement que par défaut, comme fiction d'un après-coup, dont le temps est comme temps, comme travail du temps. arrivée en prison, je n'avais pas de philosophie, au sens où je ne connaissais pratiquement rien à la philosophie. Mais j'avais néanmoins une position, une attitude ou une disposition philosophique, qui passait précisément par le matérialisme, qui était politiquement constitué. J'avais été membre du Parti communiste, et qui n'était donc pas philosophique dans son origine. J'avais la conviction que la matérialité est première et conditionne tout. Je me considérais donc comme un anti-idéaliste. Et en tant que tel, je croyais que les philosophes étaient nécessairement du mauvais côté, dans la mesure où ils étaient forcément du côté de l'interprétation du monde et non du changement de l'état des choses. La vraie philosophie, c'est-à-dire la philosophie en acte, c'était la politique. Et la vraie politique, c'était la philosophie matérialiste. Mes adversaires, c'était ceux qui appartenaient à l'idéalisme, désignés par cette phrase de Marx qui condamnait l'interprétation du monde et appelait à sa transformation par des actes. Je ne peux plus dire aujourd'hui que je suis un matérialiste en ce sens-là, mais je dois dire que je reste un matérialiste, au sens où ce matérialisme n'est pas celui qui nie l'esprit, mais celui qui pose que l'esprit, qui ne se réduit pas à la matière, est toujours conditionné par elle.
Il ne s'agissait plus d'accéder à un alter ego, mais à l'alter sans l'ego, à l'altérité d'un autre qui n'était pas constitué à partir de moi, mais constitué en premier de moi, comme moi autre plutôt que moi-même, et auquel le dehors donne lieu. Dehors qui était aussi bien la question du déjà-là, mais concrétisé sous forme de rétention tertiaire, des traces, des productions hypomnésiques. J'aurais fait pendant 5 ans ce chemin, dans l'immobilité patiente du silence, dans ce que j'ai appelé la vertu de la prison, pour me préparer, entre 1978 et 1983, à un retour au monde plus digne, plus nécessaire, plus intelligent. Or, plus le temps passera, plus j'en viendrai à craindre la replongée dans le monde, plus je sentirai que le monde retrouvé ne sera pas d'emblée accueillant. Et malheureusement, dans les 25 années qui se sont écoulées depuis cette époque, il s'est en effet révélé effroyablement inhospitalier, comme si je me retrouvais devant vous, revenu à la case départ. Il m'apparaît en effet, comme à beaucoup d'entre vous sans doute, que tout semble s'organiser pour encourager l'altitude, où domine l'insignifiance, voire l'assignifiance. C'est ce que j'appelle l'organisation de la perte d'individuation. Or celle-ci est grosse de terrifiants passages à l'acte, pour lesquels on se demande si une maïeutique est encore possible. 25 ans après le passage à l'acte qui me conduisit vers la philosophie en acte, année qui me relie à ceux qui, effarés et assommés par la vie, abrutis par le marketing et les médias, paraissent parfois si éloignés non seulement de la philosophie en acte, mais bien de toute vocation à philosopher en puissance, que l'on finit par se demander si l'unité d'un nous est encore possible. Je me demande quelle est l'unité de ma propre vie et s'il y en a une.
que je dis toujours aux gens qui me demandent, mais alors qu'est-ce qu'on va faire? Il faut d'abord que vous sachiez exactement ce que vous voulez, quoi. C'est-à-dire, bon, finalement, on est là, pour quelques centaines, quelques milliers. Bon, qui veulent faire quelque chose de l'égalité, avec l'égalité. Mais bon, il y a tout un travail, je dirais, comme ce fond aussi, pour que cette volonté commune arrive à se définir, à dire, voilà, bon, ben, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on poursuit, c'est comme ça qu'on va agir. Et au fond, c'est toujours le problème, parce qu'on a toujours ce modèle complètement débile où il y a, bon, spontanéité et puis organisation. Et non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, je veux dire, parce que le problème, c'est le problème de la dynamique même d'un mouvement. Est-ce qu'un mouvement qu'on peut dire spontané, avec beaucoup de guillemets, peut se transformer en mouvement autonome? Parce que c'est ça qui est fondamental aujourd'hui, quoi. Effectivement, se transformer en un mouvement qui est autonome, ça veut dire transformer en un mouvement qui apprend, au fond, petit à petit, à savoir ce qu'il veut et à se donner les moyens de ce qu'il veut. Et bon, c'est pour ça que je pense que c'est effectivement ce qui a toujours été le problème un petit peu à la fin des occupations, c'est bon, bah alors on rentre chez soi, ou bien alors bon, bah on fait un nouveau parti gauche de la gauche, et bon, les partis gauche de la gauche, il y en a un peu partout, bon, on en connaît, il y en a y compris chez nous, je dirais que, à mon avis, c'est pas le... Bon, effectivement, c'est un peu aussi comme un aveu de défaite, quoi. C'est-à-dire que la question, c'est, oui, est-ce qu'un mouvement... sans leader, est-ce qu'un mouvement de gens qui veulent d'abord être ensemble des égaux, bon, est capable de creuser sa propre volonté en se transformant justement non pas en institution au sens d'un parti qui va se présenter aux élections, mais en un mouvement autonome qui impose au fond comme ses propres débats, ses propres forums, ses propres objectifs et ses propres modes d'action. Alors bon, tout ça est abstrait, bien sûr.
إذا الشمس غلقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام ومات البصر في العيون والبصائر وغاب الطريق في الخطوط والدوائر يا ساير يا داير يا ابو المفهومية مفيش لك دليل غير عيون الكلام
عيني شايف الخطر طغى قلوب زي الحجر اصوات الحق بتتخرس ايدين العدل بتتبتر بذر الظلم وطرح شجر جفاف وطال بدون مطر نفوس الناس بدون قمر والعادي بقى انك تعيش جبان متهان احسن ما تكون ميت مربوط ومتأيد عبد وسيدك سجان عايش متساق متلجم دورك محدود متحجم الكون كله بيتقدم وطنك عقله بيتسمم وسواء الذل بتسقي كل غصب واقتدار ضعف وانكسار جهل وانحدار قمع وحصار عايش في بلاد منهوبه عايش في بلاد منكوبه عايش في بلاد مركوبه من حكام كفار حكموها هدف هدفهم نبقى مشتتين هدفهم نفضل في انقسام هدفهم نفضل مش فاهمين وممنوعين من الكلام مفيش مكان للاستسلام للانهزام احنا صور ومكملين رغم الغمام غاب القمر وسط السحاب اختفى ضيه في الضباب السكه ضلمت علينا امل معجون بالاكتئاب صوت مزيكا من غير ايقاع رسمه وخطوط من غير ابداع شعور ادراك من غير احساس موتوا الامل في الناس احباط اقفل النور جوه عيون الثوار حسس الناس بالعجز حسسهم بالانكسار اعمل حاجه صوتنا بينا وقول الحجه انك مش سامع كله بيجري ورا مصلحته والجرابيع يرجعوا الشارع ارجع لف في نفس الدايره الاغلبيه والتهميش باسم الاقليه تسقط دوله الشاويش المجد للجرابيع المجد للثوار المجد لكل واحد في الشارع واقف للنار المجد لكل لحظه امل لسه عايشه فينا ثابته بينا تشق موج الذل زي السفينه بتنادينا تصحي صوت الثوره اللي اتسرقت بتخلينا مكملين ولو الشمس غرقت
الشمس غرقت
في الغمام مش هيخلص الكلام مش هتموت الاحلام
ومدت على
موجة ظلم صدم في هوجة ضلال
ومات البصر
في العيون في البصاير في القلوب في الدروب تاهت الضماير
وغاب الطريق
جوه خطوط جوه فروق كلها محطوطة عشان نتوه في الدواير
يا ساير يا داير يا ابو المفهومية مفيش لك دليل غير عيون الكلام
لما صوت الحق يتكتم والصوت الظاهر يبقى الباطل والطاهر يبقى الظالم والظالم يبقى هو الطاهر والخوف يعشش في قلوب عايشة ذل طفحة جهل مفيش حل عندها غير انها تقول حاضر فتناضل وتلاقي الناس ساكتة ما بتتكلمش تحاول توصل صوتك بس برضه ما تتفهمش تصرخ ما بتتسمعش والظالم ما بيتفهمش وتسمع صوت اليأس يقولك مفيش فايدة ما تحاولش بس تقنع نفسك ان حلمك عمره ما انتهى وتشيل ايدين الناس من على بقها تحاول تدلها وتشيل الغمام توريها اللي زلها وتنور الظلام تخليها تشوف حلمها
من فزيك زيها بس الثورة جوه قلبك جوه عقلك جوه كل خط خط حتى ملامحك رسمت بسمة أمل على شفايفك وبتساعدك إنك تعدي أي ظروف بس اللي تعبك إنك بتشوف نور في ثانية طفى
وحقيقة زي رماد واختفى شمسك بتغيب ولما أنت سائل على اللي غيرك بضل مكتفى فتنفى واحد جمع على نفسه بجهله كل اللي جنبه اتضروا قال يلقى مكان وسطيهم بس في الآخر اضطروا غموا عينيهم بإيديهم قبل ما يجي الوقت اللي تتصفلهم فيها بصوا تحت رجليهم ملقوا الأرض اللي يقفوا عليها فتأكدوا من إن هم اللي ظلموا نفسهم الأول بسكوتهم فاللي بطل صوتهم يتكلم ومين اللي سبب في موتهم من غرق شمسنا مين هبردنا مين دمر فكرنا مين عرق جسمنا مين ضحك علينا بنغمتين وحاسس إن هم عمرنا مين در وشه بوش مين اللي قبل الغش مين فينا قال معلش ومن انت بتتخبى طول عمرك فما تستعجبش ان حقايق تتزيف ايدي الاحرار تتكتف ولسان بطل يهتف ما هو عارف ان كلامه بيتحرك فبكده طالما احنا سكتنا هيحاولوا يغيموا دنيتنا بس ما سرنا في ايدنا شمسنا هتطلع وهتكمل ثورتنا
الشمس غير
في الغمام مش هيخلص الكلام مش هتموت الاحلام
ومالت على الدنيا
موجة ظلم صدم فهوجة ضلال
ومالت البصر
في العيون في البصاير في القلوب في الدروب تاهت الضماير
وغاب الطريق
جوه خطوط جوه فروق كلها محطوطة عشان نتوه في الدواير
يا ساير يا داير يا بلا فهمية مفيش لك دليل غير عيون الكلام
La prison, c'est l'assaise sans arrêt, à l'exception de ces micros interruptions que sont les visites, et quand en arrive le temps, les permissions de sortie. Je finis par craindre, tout en les désirant aussi, ces micros interruptions du silence en quoi consiste l'assaise. J'évitais même, autant que possible, les promenades qui rompaient ce silence que j'appris à aimer. Quand on a commencé à pratiquer systématiquement l'expérience de son milieu pré-individuel vécu, devenu accessible pour lui-même, hors le contexte du monde, comme un milieu presque palpable, un peu comme l'air devient sensible tel un liquide, lorsque, roulant à grande vitesse, on sort sa main hors du véhicule, étant hors contexte et ayant donc suspendu absolument toute relation à un milieu signifiant, autre que ce que l'on emporte et réactive soi-même, ou comme ce vers quoi l'on va délibérément, tel ce livre qu'on lit, que l'on dévore, ou que l'on produit, que l'on écrit. Alors si tout à coup on se trouve confronté à des micro-interruptions de cette assaise, paradoxalement, on souffre énormément. On découvre que, finalement, c'est une souffrance d'être libre. C'est une souffrance parce que la plupart du temps, cela se produit, non pas comme liberté, mais précisément comme aliénation. On s'aperçoit alors, avec stupeur, que dans sa cellule, on est beaucoup plus libre, ou du moins que la liberté y est beaucoup plus accessible, beaucoup plus pure, même si précisément, elle apparaît, alors essentiellement comme étant la fragilité, ce qui est intrinsèquement fragile, ce qui doit faire l'objet de tous les soins, d'un véritable culte, d'une culture. Cette culture, c'est ce que j'ai nommé, après Épictète, ma mêlée.
j'ai pu entrer dans la philosophie à proprement parler par accident. Donc. Mais grâce aux lois de la cité, l'esprit des lois de la République française faisait en effet qu'il y avait aussi une bibliothèque dans cette vieille prison. Ces lois, et ce qui, par l'État, en est aujourd'hui encore préservé comme leur esprit, j'espère que les années qui viennent ne seront pas leur destruction, mais au contraire leur anamnèse, en un sens renouvelé.
Bon, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, la fabrication des objets, elle n'a pas disparu, simplement elle a disparu de nos yeux. Bon, ce qui est différent, c'est-à-dire que bon, finalement des ouvriers comme au 19e ou comme au 20e, bah il y en a encore plein, il y en a en Chine, il y en a au Bangladesh, il y en a au Cambodge, il y en a bon, effectivement, ils sont loin, mais je dirais cette production matérielle, bon ben, elle existe toujours, bon, elle circule dans une espèce d'énorme container. Bon, c'est vrai qu'il y a toute une espèce de visibilité du travail qui a disparu. Je pense que c'est ça qui est important, c'est pas tellement le fait qu'il n'y aurait plus d'ouvriers. Bon, c'est le fait que, disons, le travail comme une espèce, je dirais, de monde commun. Bon, c'est ça fondamentalement qui a disparu, parce que disons il y a pas de lien direct entre le fait que voilà on fait des choses avec ses mains, donc on a envie de changer le monde. C'est pas ça, quoi. C'est-à-dire, au fond, on a envie de changer aussi au fond ce que font les mains, ce que font les yeux, ce que fait la tête. Et ça suppose effectivement qu'il y ait quelque chose comme des capacités de construire, au fond, la possibilité d'un monde à partir d'une certaine à la fois d'une certaine place dans ce monde et un désir de changer cette place.
Les conditions de constitution du monde apparaissent dans l'absence du monde, en particulier comme impossibilité de choisir son habit, son mobilier, ses amis, l'emploi de son temps, et par là d'articuler et d'agencer. Le monde est l'être au monde. Je commençais alors d'entrer dans être et temps, et d'amorcer, si j'ose dire, un soliloque avec Heidegger. Et ce monde est le tissu ou la trame de pratiques signifiantes, tout aussi bien que ce qui est tramé et tissé par ces pratiques. Car finalement, en effet, ce qui reliait toutes les questions qui m'envahissaient dans l'immobilité et le silence du soliloque commencé au premier jour de ma réclusion, c'était, sous ses plus diverses facettes, la question de la signifiance et de son combat avec l'insignifiance, avec elle-même, autrement dit, et l'expérience de cette différence intime et secrète qui se faisait ou ne se faisait pas, ou se défaisait, dans les choses et entre les choses, et qui changeait tout aux choses. Tout le monde a fait cette expérience, et en vérité l'a fait sans cesse, consciente ou non. On désire, ou attend, ou considère un objet, un bien, un être, puis l'objet, le bien ou l'être étant là, ils s'effacent, deviennent indifférents, voire accablants, dégoûtants, défaits, néants. En prison, je fais cette expérience en permanence, et en quelque sorte de manière pure avec les restes qui me trament et qu'en fin de compte je suis. Mais cette expérience n'est pas recouverte par d'autres à mesure qu'elle se produit, et qui me permettrait de la fuir, comme c'est le cas dans le monde de l'ordinaire. Elle est posée là, devant moi, et comme l'expérience même du moi, je ne peux pas éviter de constater qu'en fait, c'est en moi et par moi que tout passe et se passe. Ce n'est pas la chose qui est insignifiante, puisque hier elle était signifiante. Et comme je suis seule avec elle, et que rien autour de nous n'a changé, je ne puis l'ignorer. C'est moi, en tant que mémoire vivante, qui me suis transformée depuis hier, tandis qu'autour de moi, tout est encore comme hier et comme ce sera demain. En prison, ce qui aujourd'hui est très saillant et consistant, chargé de sens et en ce sens signifiant, ne cesse de devenir demain indifférent, totalement insignifiant et inversement. Du moins tant que je n'ai pas compris qu'il résulte justement de ces faits, cet autre fait qu'il n'y a rien d'insignifiant en soi et que ce qui peut être insignifiant, ce ne sont pas les choses elles-mêmes ou en elles-mêmes, mais les rapports que j'entretiens ou que justement je n'entretiens pas avec ces choses, telles que je les articule et les agence. C'est en faisant cette épreuve que je compris qu'il n'y a pas de signifiance abstraite, c'est-à-dire en dehors d'un matériau signifiant et d'une pratique signifiante, et que je suis seule responsable du fait que cela signifie ou non. Dès lors, j'adoptais cette attitude de principe selon laquelle ma tâche consistait à trouver la signifiance dans l'insignifiant. Je posais en principe qu'il n'y a rien d'insignifiant, sinon moi-même, lorsque précisément je ne veux pas devenir moi autre, lorsque je ne veux pas me laisser altérer, me laisser individuer par la signifiance de l'autre, autre chose, autre moi. Et je compris que la signifiance demande la fréquentation, la fréquence d'une pratique, que l'on accède à la signifiance d'une langue, par exemple, avec laquelle on n'entretient pas un rapport soutenu où l'on s'individue, que l'on ne parle pas plus qu'à la signifiance d'une musique que l'on ne fréquente pas assidûment, comme la poésie de Mallarmé qui ne se donne qu'aux patients. C'est ainsi que j'en vins à m'imposer et à pratiquer systématiquement mes disciplines, ma mêlée, où je découvris que la signifiance a partie essentiellement liée à la mémoire, les objets et plus généralement les signifiants, que sont les énoncés, les livres, les signes et les symboles, les objets d'art et tout ce qui trame l'unité des milieux humains, ne m'apparaissent que comme écho de ma mémoire. C'est en tant qu'ils répondent à une attente de ma mémoire, une protension, qui peuvent signifier, faire signe, me faire signe. Dès lors, il s'agissait d'apprendre à cultiver les bonnes attentes. Je compris aussi que le couple oppositif du signifiant et du signifié n'était pas la bonne question, et que Saussure s'y était enlisé, et avec lui tout le structuralisme. Je rencontrai ainsi, mais par une toute autre voie, l'entreprise de Jacques Derrida, dont je lus avidement de la grammatologie.
La question de la fidélité est une aporie. On ne peut être fidèle à l'unité et à l'identité qu'en restant fidèle aux altérités de la diversité, des personnages que l'on aura été et joué. Parfois, sans le savoir, sans s'en apercevoir, et qui résulte du caractère accidentel de l'existence. Successives, sinon des personnalités multiples. J'ai plusieurs fois changé de vie. Mais qu'est-ce que changer de vie ? Est-ce possible ? En vérité, c'est la question de la fidélité des engagements. L'être en devenir, qui est notre défaut, ouvre immédiatement la question de la fidélité, c'est-à-dire de la foi. On doit changer. Et comme le dit la formule populaire, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Et en même temps, on doit demeurer, être et rester fidèle. Être fidèle à ce qui reste. Rester fidèle au reste. Or, c'est ce qui rend difficile la finitude rétentionnelle, le fait que la mémoire flanche. Étant fragile et faillible, la mémoire est infidèle. C'est cette question à laquelle je me suis beaucoup attaché, la relation entre cette question de la fidélité à soi et de l'infidélité à soi, du soi dans ses moyens, est précisément le problème des moyens de ce qui permet d'amortir la finitude rétentionnelle.
Sur la fiction, la fiction à la fois en littérature, dans le cinéma. C'est-à-dire que je travaille justement sur tous les moments où quelque chose se passe alors qu'il ne devrait rien se passer, ou bien ceux qui devraient être complètement oubliés, abandonnés, bah, tout d'un coup ils apparaissent, ils prennent une force, une dignité sur l'écran, voilà. Et, voilà, bah, bon, ça me donne la possibilité de parler, quoi. Si effectivement j'étais tous les jours à me dire, oh là là, il faut que je réponde, il faut que je réponde aux derniers trucs qui ont apparu sur Facebook, ou aux derniers discours des intellectuels médiatiques, bon, bah, là, je serais malade. Et c'est toujours pareil, c'est-à-dire quand on entre dans un jeu, on finit par faire comme font tous les autres. Bon, j'ai décidé ça un jour, c'était l'époque de la nouvelle philosophie. Bon, est-ce que je vais répondre? Puis je me suis dit, bah non, j'ai autre chose à faire. Bon, c'était l'époque où je travaillais sur le fond du menuisier Gonnie aux archives, en tant que bibliothèque municipale de Saint-Denis. Bon, je me suis dit, bah, c'est ça que j'ai à faire, m'occuper de cette espèce de puissance, je dirais, de rupture, de nouveauté qui est là-dedans, et pas répondre à toutes ces vieilleries. C'est vrai que les vieilleries se reproduisent, mais en même temps, si on veut lutter contre, bah, il faut travailler sur le nouveau, sur le fort, partout où il existe. Et il se trouve que le fort et le nouveau, il est toujours égalitaire. J'y peux rien, mais c'est comme ça.
Ma vie aura été une succession de vies, comme si j'avais eu plusieurs vies, une multiplicité d'histoires et de rôles. Je n'ai pas cessé de changer de vie. Je n'ai jamais philosophé. Si jamais j'ai philosophé, qu'à l'épreuve de la succession de ces rôles que j'ai pu occuper et de la variété vertigineuse des points de vue qu'il m'en reste. Cette succession, je la supporte comme la marque même du défaut d'origine, qu'il faut, dont ces rôles successifs accidentels sont des masques, des personas qu'il a fallu que je suis devenu comme ce qu'il fallait. Et justifié uniquement, si jamais ils le sont, dans l'après-coup de ma liberté fragile, de ma fidélité faillible aux défauts d'origine, à la loi.
Intimité et secret de ma vie. Comment devient-on philosophe dans l'intimité et le secret de sa vie? Telle est la question que Marianne Alphand m'a adressée, comme à d'autres. Et comme eux sans doute, elle m'a plongée dans un grand embarras. Et en y réfléchissant un peu, je me suis tout de suite dit que, dans son après-coup, le devenir philosophe m'apparaissait en effet et précisément comme le secret et l'intimité de ma vie, au sens strict de ces mots.
Thank you.
C'est un petit peu ça le problème. Au fond, la politique est fondée sur une capacité complètement énigmatique, voilà, une capacité au commun, une capacité commune, une capacité commune. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et au fond, la question, c'est d'arriver à savoir comment ça peut s'incarner. Bon, je pense pas que ça s'incarne de manière satisfaisante dans nos représentants, bon, y compris ceux qui sont d'une intégrité parfaite. Mais bon, de toute façon, bon, c'est vrai que le pouvoir en général corrompt, le fait d'avoir le moindre pouvoir sur les autres corrompt, et aussi corrompt l'intelligence. Bah, finalement, je crois que la capacité même de penser, de juger, bon, s'affaiblit chaque fois qu'on a au fond un pouvoir. Et ça, on vérifie partout, quoi. On vérifie aussi bien dans une commission universitaire, par exemple. Bon, c'est pas un pouvoir énorme, mais on se rend compte que très très vite, finalement, on risque de devenir idiot par la logique même de l'exercice d'une supériorité.
C'est avec la voix de Jacques Rancière que nous refermons cet épisode de Rhizome. Merci à toutes, merci à tous, et à bientôt. Thank you.